Journal est signé Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, les galères de l'EPR, le réacteur nucléaire de Flamanville, chantier de tous les extrêmes, déboires en série, factures à l'avenant, 8 soudures désormais à réparer, encore au moins 2 ans de retard. La guerre gronde-t-elle en Iran ? Trump, comme d'habitude menaçant, après le drone d'hier, drone de l'armée US, abattu par Téhéran parce que dans son espace aérien, le Pentagone dément, nous sommes à Washington. Au sommaire également ce soir, un test de diagnostic du cancer récompensé. L'inventeur est un chercheur français, vous l'entendrez. Les 28 qui tentent de s'entendre sur les noms des futurs postes clés de Bruxelles. L'hommage de Franz Ferdinand au musicien Zdar, mort hier à Paris. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, qu'est-ce qu'ils ont tous avec les années Pompidou ? 50 ans après l'accession au pouvoir de Pompidou, colloque, hommage, expo. De quelle nostalgie parle-t-on ? D'une France où on vivait clope au bec, où on ne s'occupait pas des particules fines qui émanaient des 104 breaks, d'une France industrielle, heureuse, sans chômage de masse, d'une France finalement après laquelle on court aujourd'hui. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. Combien de fois a-t-on parlé ici des déboires de l'EPR, le réacteur nucléaire de troisième génération, lancé il y a 15 ans à Flamanville pour une mise en service prévue en 2012 et depuis toujours reporté entre fissures dans le béton et anomalies sur la cuve. La facture initiale à 3 milliards 300 millions d'euros dépasse aujourd'hui les 10 milliards. Et ce n'est pas terminé. Bonsoir Célia Kirem.
Bonsoir Sébastien.
L'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de réparer des soudures sur le réacteur avant sa mise en service.
Oui, c'est indispensable, même si ces soudures sont très difficiles d'accès. Il faudra d'abord les réparer. Il faut essayer de les imaginer. Elles sont dans les tuyaux qui traversent l'enceinte de confinement du réacteur, un bloc de béton qui doit justement retenir les éléments radioactifs. Or, une rupture de ces soudures aurait des conséquences désastreuses. Sylvie Cadet-Mercier est commissaire à l'ASN, l'agence de sûreté nucléaire.
La rupture d'une tuyauterie, dans laquelle il y a de la vapeur, premièrement, la vapeur va partir dans les locaux autour et donc va faire une montée en pression des locaux. Il va y avoir donc une dépressurisation dans le tuyau et de ce fait une onde de pression qui va se propager dans le système comme une vague. Ça peut endommager donc les structures internes du générateur de vapeur, les locaux, les équipements par la tuyauterie qui taperait dessus et le circuit primaire et plus particulièrement le cœur par le refroidissement et un transitoire de puissance dans le cœur.
Voilà donc le scénario catastrophe à éviter.
Ces réparations vont forcément encore retarder le chantier.
Oui, au moins 2 ans, l'EPR devait démarrer au printemps. Ce serait finalement fin 2022 ou 2023 au mieux. D'ailleurs, aucune date de réparation n'a été fixée par EDF. Tout le calendrier est chamboulé et le coût de l'EPR continue d'augmenter. EDF ne chiffre pas non plus les dépenses futures liées à ces travaux.
Et quelles conséquences sur la filière énergétique française ?
Alors d'abord, ça bloque d'autres chantiers éventuels d'EPR et surtout, ça pourrait remettre en question la fin des centrales à charbon prévues d'ici 2022. Cette promesse est en effet conditionnée à la mise en service de cette EPR. Là, ça risque de coincer, sauf si la France réduisait sa consommation d'électricité, ce qui serait d'ailleurs positif pour Yves Marignac de l'association Négawatt.
Si le gouvernement veut maintenir ses objectifs de fermeture de centrales à charbon et de fermeture de Fessenheim, il faut effectivement enclencher une politique qui est de toute façon nécessaire à long terme de maîtrise de la consommation d'électricité en allant chercher tous les potentiels de meilleure consommation dans les bâtiments, dans les bureaux et dans l'industrie.
Alors le gouvernement assure que les centrales à charbon fermeront, mais si la Bretagne, par exemple, a des difficultés d'approvisionnement, il pourrait garder en secours la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique. Pas simple de tout concilier. Encore une fois, le calendrier de cette stratégie énergétique est décalé.
Merci Célia Kiray. La facture a désormais donc plus que triplé, près de 11 milliards d'euros. L'autre actualité du jour dont on suit les développements depuis des années, c'est l'affaire Vincent Lambert, cet homme tétraplégique et en état végétatif depuis un accident de moto en 2008 et dont la famille se divise. La cour d'appel a ordonné la reprise des traitements à la surprise générale il y a un mois et le procureur général préconise lui de casser cette décision, Charlotte Piret.
C'est ce que François Molins, procureur général de la Cour de cassation depuis 7 mois maintenant, a en effet l'intention de requérir lundi en audience. Son argumentaire est simple. Le 20 mai dernier, lorsque la Cour d'appel ordonne la reprise des traitements, quelques heures seulement après que les médecins ont commencé l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, la Cour d'appel n'est pas compétente pour prendre ce type de décision. Puisqu'il s'agit d'une bataille contre un établissement hospitalier, donc l'État, c'est la justice administrative qui est compétente, estime François Molins, qui réfute dans son avis écrit l'atteinte atteinte à la liberté individuelle, cette voie de fait sur laquelle s'était appuyé le juge judiciaire pour prendre sa décision de reprise des traitements. Lundi, l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert plaidera lui aussi en ce sens. Si tous ces arguments sont entendus par la haute juridiction, ce pourrait être vraiment l'épilogue de l'affaire Vincent Lambert, car cette fois, tous les recours imaginables semblent avoir été épuisés. En cas de cassation sans renvoi devant une autre juridiction, comme le demande François Molins, l'arrêt des traitements pourrait même reprendre dès la fin de semaine prochaine.
À la frontière entre santé et justice encore, Jérôme Cahuzac va pouvoir exercer la médecine générale. L'Ordre des médecins donne son feu vert à l'ancien ministre du Budget et ancien chirurgien, condamné l'an dernier à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale. Il est aujourd'hui sous bracelet électronique et souhaite s'installer en Corse.
L'Iran, plus que jamais au centre des tensions.
Après les attaques de pétroliers et puis surtout l'épisode du drone la nuit dernière, drone américain abattu au-dessus du détroit d'Ormuz par un missile iranien. Il volait au-dessus de l'Iran, d'après les gardiens de la Révolution, qui rappelle que la violation des frontières est la ligne rouge et qui veulent porter l'affaire aux Nations Unies. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Info démentie chez vous à Washington, où on se demande tout simplement si Trump n'est pas sur le pied de guerre.
Écoutez, un journaliste a posé la question il y a quelques minutes à Donald Trump, alors que celui-ci accueillait dans le bureau ovale à la Maison Blanche le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Est-ce que vous prévoyez de frapper l'Iran? Et voici la réponse de Trump. Vous verrez bien ce qui va se passer. Si vous voulez connaître la vérité, j'ai du mal à croire que c'était intentionnel. C'est peut-être quelqu'un de stupide dans leur commandement qui a fait ça. Et ce quelqu'un a fait une très grosse erreur. Un peu plus tôt, Donald Trump avait tenu une réunion de crise avec son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, et son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui l'envoie d'ailleurs en Israël pour parler sécurité régionale. Pour les Américains, en tout cas, ce drone a bien été abattu dans l'espace aérien international et pas au-dessus du territoire de la République islamique d'Iran, comme l'indique Téhéran, à 34 kilomètres des côtes iraniennes, précise un général au Pentagone. En tout cas, la tension monte encore d'un cran après l'attaque de 2 pétroliers il y a une semaine attribuée par Washington aux gardiens de la Révolution et après l'envoi par la Maison Blanche de 1000 soldats américains supplémentaires dans la région.
L'Iran a fait une énorme erreur, dit Trump. Merci Grégory Phillips. Et les cours du pétrole s'envolent dans la foulée de ce tweet. Plus 6% à New York. La stratégie du président américain face à Téhéran est un désastre pour l'ancien vice-président, candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden. Vladimir Poutine recommande lui à l'Amérique de ne pas envenimer une situation déjà très tendue et d'éviter le recours à la force.
Je veux dire que ce serait une catastrophe pour la région au minimum. Mais aussi, pour ceux qui tenteraient ça, il y aurait de tristes conséquences. Parce que ce sera très difficile de prévoir tout ce qui se passera après l'usage de la force militaire. Très difficile à prévoir. Ce qui peut se passer, personne ne le sait. Et qui cela peut toucher, personne ne le sait non plus. Quant à l'Iran, il suit tous les accords de l'AEIA, l'organisation qui contrôle le nucléaire. L'Iran ne viole rien et lui imposer des sanctions, nous trouvons ça incorrect.
Et signe que la situation reste sérieuse, un conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron était hier à Téhéran pour des rencontres au plus haut niveau, dit l'Élysée. Des rencontres, il n'y a que ça aujourd'hui et demain pour les noms de Bruxelles. Les 28 ont 2 jours pour essayer de boucler ce que Jean Quatremer dans Libé appelle le grand mercato européen. Trouver les nouveaux titulaires des grands postes de l'Union après le scrutin de fin mai. Pas gagné, bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à Bruxelles, Louise. Le premier de ces noms qui fera ensuite sans doute plus facilement ruisseler les autres, c'est celui du remplaçant de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission.
Oui, c'est la clé censée débloquer tout le reste, clé pour l'heure bien cachée. Il est plus rapide d'élire un pape que de pourvoir ce poste, plaisante l'Irlandais Leo Varadkar, pendant qu'Emmanuel Macron s'interroge.
Peut-être aurons-nous un nom à la fin de ce conseil. Je pense qu'il faut être là-dessus réaliste. Ça n'est pas une certitude.
Réaliste et pas très optimiste, le président français. C'est un nouveau sommet pour rien qui se profile ici à Bruxelles. Une demi-heure de tête-à-tête franco-allemand n'y a rien changé. Le désaccord reste entier ce soir entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Elle refuse de lâcher son allié bavarois. Manfred Weber lui trouve qu'il n'a ni l'expérience ni la carrure requise pour présider la commission.
Il faut des personnes qui aient les compétences qui partage ses ambitions, qui a la crédibilité pour le faire, et je soutiendrai les figures les plus fortes à cet égard. Je ne veux pas m'enfermer dans un nom parce que je veux aider à construire collectivement.
Pas de candidat préféré pour ne fermer aucune porte, même Manfred Weber, c'est non. Le chef de file du groupe conservateur, le PPE majoritaire au Parlement, n'aura d'ailleurs pas le soutien des eurodéputés socialistes et centristes. Alors est-il pour autant hors course ? Son groupe a-t-il un plan B qui ferait les affaires du président français sans trop fâcher la chancelière allemande ? Beaucoup de questions ce soir sur ce poste clé et sur les quatre autres à négocier. Trouver un accord global pourrait prendre encore une dizaine de jours et un nouveau sommet est d'ores et déjà envisagé le 1er juillet.
Louise Baudet en direct de Bruxelles avec Yves Lehors. La succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du... chef du gouvernement britannique, je trouve le mot, se jouera entre Boris Johnson et Jeremy Hunt. Ce sont les deux derniers encore en lice pour l'élection et l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, est favori. Réponse dans la semaine du 22 juillet. La justice façon turque, c'est à Ankara, la fin d'un des principaux procès du putsch manqué de l'été 2016, vous vous souvenez. Le tribunal condamne 151 personnes à Nandlouer à la prison à vie.
Comme attendu, le verdict est sévère. C'est une longue succession de peines de prison pour presque tous les accusés. 17 anciens hauts gradés de l'armée turque ont même écopé de la perpétuité incompressible 141 fois chacun. Il s'agit des principaux membres du conseil dit de la paix dans le pays, conseil militaire autoproclamé qui avait prétendu, la nuit de la tentative de putsch, agir au nom de la démocratie, de la liberté d'expression et de l'état de droit. La justice les a reconnus coupables de la mort de 139 personnes, de tentative de coup d'État, de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et de tentative d'assassinat contre le président Recep Tayyip Erdogan. Parmi les condamnés figure un ancien chef de l'armée de l'air, le général Akın Öztürk, présenté pendant tout le procès comme le leader militaire du putsch, un ancien bras droit du chef d'état-major ou encore l'ancien aide de camp du président Erdogan. Les dossiers de 13 accusés ont été séparés, dont celui de Fethullah Gülen, ce prédicateur installé aux États-Unis considéré comme le commanditaire du coup d'État. Depuis bientôt 3 ans, l'administration américaine refuse de donner suite aux demandes d'extradition des autorités turques. À Nandlouer, Istanbul, France Inter.
En bref, encore une opération anti-Daesh vient de s'achever dans l'ouest du Niger, près du Mali. Opération militaire menée pendant 10 jours par Niamey, Paris et Washington. Bilan, 18 terroristes du groupe État islamique tués, 5 autres prisonniers.
Il est 19h12 sur France Inter. Sébastien, le prix de l'inventeur européen de l'année à un chercheur de l'INSERM.
L'immunologiste français Jérôme Gallon, distingué dans la catégorie recherche. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Il a mis au point l'immunoscore. C'est un test de diagnostic du cancer fondé sur la réponse immunitaire du patient.
Oui, en fait, ce test, qui est déjà utilisé depuis un an en France, en Europe, aux États-Unis, mesure cette réponse. Il fournit les données pour savoir comment l'organisme se défend face à l'attaque du cancer. C'est donc Jérôme Gallon, le lauréat, directeur de recherche à l'INSERM, qui l'a mis au point. Et c'est comme une méthode de comptage, en fait.
C'est un test qui est fait sur un morceau de tumeur qui est récupéré par le chirurgien et sur laquelle on va mesurer, faire un marquage en fait de globules blancs, marquer les globules blancs qui sont présents. On compte en fait le nombre de cellules immunitaires présentes dans la tumeur grâce à des logiciels d'analyse d'images qui permet de mesurer le système immunitaire du patient. Et ensuite, connaissant cet immunoscore, on peut réactiver nos mécanismes de défense immunitaire.
En particulier grâce à l'immunothérapie qui se développe depuis une dizaine d'années, dont on parle de plus en plus dans les traitements contre le cancer, c'est booster les défenses de l'organisme pour qu'elles s'attaquent aux cellules cancéreuses. Alors cet immunoscore est donc très important pour suivre l'évolution de la maladie, des traitements et les moduler. Son utilité a déjà été reconnue dans le cancer colorectal où la probabilité de ce test de prédire la survie des patients a été établie à 95% et des validations sont en cours pour d'autres types de cancers.
Daniel Messager, merci. Il a été confondu par son mode opératoire. Le tueur en série Jacques Ranson avoue un crime 33 ans après. Le viol et l'assassinat d'une informaticienne de 20 ans, Isabelle Ménage, c'était en 86 en Picardie. Celui qui est surnommé le tueur de la gare de Perpignan purge une peine de perpétuité pour 2 autres meurtres de jeunes femmes. 2 gardiens agressés ce matin à la prison du Havre par un détenu qui purge une peine lui de 7 ans pour terrorisme. Il était allé en Syrie. L'homme de 25 ans a frappé les 2 surveillants avec un pied de la table de sa cellule avant d'être maîtrisé. Les 2 agents sont légèrement blessés. La section antiterroriste du parquet de Paris saisit. Un homme de 47 ans agressé la nuit dernière dans le 18e arrondissement de Paris. Il faisait le plein à une station-service quand 4 personnes l'ont plaqué au sol. Ils lui ont arraché sa montre, une Rolex à 39 000 euros.
Il y a 50 ans, Georges Pompidou était élu président de la République.
Vous en parlez au téléphone sonne, Fabienne, peut-être aussi de sa clope au bec, de sa Porsche, du goût du couple pour l'art moderne, évidemment. 45 ans après sa mort, colloques et rendez-vous officiels, Cyril Graziani, l'occasion d'entendre Giscard, 93 ans, parler de Pompidou.
Sa parole est rare, mais pas dénuée d'humour.
Écoutez, c'est bien que vous m'applaudissiez avant que je parle.
Valéry Giscard d'Estaing était absent hier à la réception organisée en l'honneur de Pompidou à l'Élysée, car il ne s'y est plus rendu depuis un certain jour de mai 1981. VGE a été le ministre de l'économie de Pompidou tout au long de son mandat. Aucune divergence durant ces années, dit-il. Tout le contraire d'avec Jacques Chirac, nommé à l'époque secrétaire d'État au budget, selon Giscard, pour...
pour me surveiller. Il venait dans mon bureau, il s'asseyait dans un fauteuil, c'était son principal travail. Et il observait et repartait en fin de journée. Il allait terminer son travail en allant prendre un whisky à l'Élysée en compagnie de la cellule politique du président.
Les années passent, les inimitiés durent. Après son intervention, question sur le rapprochement entre Pompidou et Macron.
Réellement non, c'est pas la même approche.
La France aime-t-elle être gouvernée au centre ?
La France ne peut être gouvernée qu'au centre. Et j'avais écrit un livre sur les Français, sur deux Français sur trois, et mon livre a été vendu à 1 million d'exemplaires.
Finalement, comme Emmanuel Macron qui a fait hier des parallèles avec sa présidence, pour évoquer leurs prédécesseurs, les anciens présidents, eh bien, ne peuvent pas s'empêcher de parler d'eux.
Cyril Graziani avec donc Valéry Giscard d'Estaing qui balance. Peut-on réduire la dépense publique tout en améliorant la qualité du service public ? C'était le pari d'Emmanuel Macron dans son discours à la fin du grand débat. En supprimant les organismes inutiles rattachés au gouvernement et des échelons dans l'administration centrale, depuis le début du mois, on plonge donc dans les ministères Claire Chaudière et voici les premières pistes présentées ce matin, avant d'autres en octobre.
Sur les 1200 agences et entités administratives indépendantes rattachées à l'État, 40 projets de suppression ou rapprochement ont été identifiés ces dernières semaines, sur le modèle par exemple de la fusion déjà actée entre l'Agence de la biodiversité et l'Office national de la chasse. Un premier pas insuffisant, a répété le Premier ministre qui souhaite voir cette liste s'allonger. À cela s'ajoute un objectif de suppression d'un quart des 390 commissions administratives existantes pour un gain économique plus limité et parallèlement, une première vague de déconcentration des services de l'État vers les territoires. 30 délocalisations, 4000 agents concernés pour les seuls ministères des comptes publics et des armées, qui s'installeraient prioritairement dans des territoires en difficulté, bassins miniers, départements ruraux dévitalisés comme la Creuse. Déménagement prévu court en 2020 après discussion avec les personnels concernés qui gagneraient par ailleurs en qualité de vie, insiste le gouvernement. Mais là encore, ces premières propositions ne vont pas assez loin pour Matignon, qui affirme avoir demandé aux différents ministères de revoir leur copie d'ici l'été. Décision attendue cet automne.
Pas de fusion totale de l'audiovisuel public, soit une holding, soit des coopérations plus importantes, a dit le ministre de la Culture et de la Communication ce matin sur Inter. Franck Riester, la réforme qui doit rapprocher France Télé, Radio France, l'INA et les autres sera présentée fin octobre. Il était ingénieur du son et producteur, l'un des plus réputés au monde, moitié des duos Cassius et Motorbass, associé aussi à d'autres grands noms comme les Beastie Boys, Cat Power ou Phoenix. Philippe Sdar est mort hier soir, tombé par accident de la fenêtre d'un appartement parisien. Le garde-corps du balcon aurait cédé, une enquête est ouverte. Pedro Winter, Laurent Garnier, Étienne de Crécy, Daft Punk, tous lui rendent hommage. Le leader des Franz Ferdinand, Alex Capranos, le faisait déjà en 2017. Sdar produisait leur dernier album.
Philippe, c'est le maître. Par rapport aux producteurs de notre époque, quand on écoute sa musique, ça vous met de bonne humeur. C'est riche, c'est plein de vie. Et Philippe a cette philosophie de vie qui veut que, si c'est jouable, il faut toujours tenter d'obtenir le meilleur résultat possible. Dans son studio, il a toujours préféré avoir un seul micro excellent plutôt que 12 micros moyens.
Alex Capranos rend hommage à Sdar, mort à 52 ans. C'était au micro de Yann Bertrand. Le nouvel album de Cassius sort demain. Le duo devait être à l'Olympia pour la fête de la musique d'Inter. On lui rendra évidemment hommage en musique demain sur l'antenne et à l'Olympia.
Sébastien Paour et le journal. Merci beaucoup Sébastien. Le téléphone sonne, c'est dans un tout petit instant. Ne bougez pas, l'œil sur le ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Elodie Calac, nouvelle dégradation orageuse en vue.
Oui, cette nuit, elle gagne les Pyrénées, le sud-ouest, avec des pluies parfois soutenues, des orages. Demain matin, elle concernera l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, toujours avec de bonnes pluies orageuses. L'après-midi, ça s'arrangera un petit peu sur l'Aquitaine, on gardera quand même des averses. Le temps agité, lui, glissera vers le Limousin, vers l'Auvergne, avec des orages parfois forts, de la grêle, des rafales de vent et des quantités de pluie importantes. Entre la Provence, Rhône-Alpes, le Jura, des orages l'après-midi, avant l'arrivée de la dégradation pluvio-orageuse pour la soirée.
Et dans les régions nord, ce sera en revanche beaucoup plus calme.
Oui, de la Bretagne et des Charentes vers le bassin parisien, le nord, le Grand Est, de belles éclaircies. Un petit peu timide près de la Manche le matin, mais ce sera nettement mieux l'après-midi. Pour les températures, 7 à 15 degrés au nord le matin, 12 à 20 au sud. L'après-midi, 16 à 25 degrés d'ouest en est, encore 25 à 30 autour de la Méditerranée. Et puis ça va se réchauffer nettement à partir de dimanche, et ce, toute la semaine prochaine, avec des températures qui seront certainement caniculaires.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup, Élodie.